Radio Mieux-Être. CJLV AM 1570. Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Vos rêves vous parlent, en présence de Jean Rivet et Jean Gagliardi. Bonjour Jean.
Bonjour Jean.
Alors aujourd'hui, journée froide sur le Québec, on est à moins 24 je crois.
Ah, je crois que c'est même moins 35 dans le vent, d'après ce que j'ai vu ce matin.
Oui, oui, oui. Donc c'est une température qui nous laisse un peu froid.
Oui, tout à fait. Je vous souhaite d'être bien au chaud pour nous écouter, que ce soit à la maison, au bureau, mais vraiment, il est important d'être au chaud, dans votre voiture peut-être. Mm-hmm. Oui, c'est le moment vraiment de se tenir au chaud, parce que le froid, sinon ça réveille, ça nous fait quitter immédiatement nos rêves.
Tout à fait, et on peut dire même qu'on doit rester cool en toutes circonstances.
Voilà, alors restons cool. un petit peu d'humour. Et en même temps, c'est difficile de rire un petit peu dans ces moments. Vous savez toutes qu'en ce moment, en France, c'est une journée de deuil. Je veux commencer l'émission en disant que, évidemment, je m'associe à ce deuil. Nous sommes tous Charlie, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Jean?
Absolument, 100%. Radio Mieux-Être également s'associe à cette cause silencieuse, je vous dirais.
Nous aimerions pouvoir faire passer des caricatures sur la radio, mais il manque encore des moyens techniques pour pouvoir vraiment offrir les caricatures qui marqueraient cet événement. Alors, on va parler rêve, s'éloigner un peu de cette dure réalité, des attentats, des choses terribles comme ça. Et en même temps, finalement, ce n'est pas le travail des rêves, ce n'est pas une façon de fuir la réalité. Je dirais même bien au contraire. S'il y a une raison fondamentale de s'occuper de nos rêves, c'est que dans nos rêves apparaissent les conflits qui nous travaillent à l'intérieur. Et qu'en les regardant, en les prenant en charge, on évite de projeter ces conflits à l'extérieur, on évite d'ajouter à toutes ces horreurs qu'il y a dans le monde. Donc je voudrais profiter de ces circonstances pour le mentionner, le travail des rêves n'est pas un travail égoïste qu'on fait chez soi, en s'occupant seulement de son petit nombril, mais finalement on accueille les conflits qu'on a en nous. On accueille aussi les conflits qu'il y a dans le monde, comment ils résonnent en nous. Peut-être qu'il y a des gens cette nuit qui ont rêvé d'attentats, qui ont rêvé d'horreurs comme ça, qui ont tout simplement été touchés par les nouvelles. Et le travail des rêves, c'est une façon de contribuer à apurer ces conflits qu'il y a partout dans le monde, en commençant par nos propres conflits.
Qui sont souvent gardés potentiels en la personne, chez les individus, tout ça. Au niveau collectif et individuel. Hein,
c'est ça, c'est des conflits qu'on porte à l'intérieur de nous et que tant qu'on ne s'occupe pas de les prendre en charge consciemment, on a tendance à les projeter sur l'extérieur, c'est-à-dire que ce sont les autres qui portent le problème, ce sont les autres qui ont tort, qui ne devraient pas exister, qui sont mauvais et on alimente les conflits à l'extérieur. Mmh. Alors c'est vraiment une des motivations fondamentales pour le travail avec les rêves, pour le fait de regarder les rêves, c'est qu'on va prendre en charge ce qu'on appelle notre ombre, notre côté négatif, au lieu de le laisser courir inconsciemment dans le monde.
Mmh, mmh. Et on pourrait presque dire qu'en fait, ces caricatures dont on parle tant, est-ce que ça ne serait pas une façon d'exorciser un peu la part d'ombre collective qui court dans la société?
Certainement, certainement. Et le rire est d'ailleurs certainement la meilleure façon d'exorciser ce démon. Si nous pouvons le caricaturer, si nous pouvons en rire, quelque part nous en sommes libres. C'est pourquoi c'est particulièrement odieux de s'en prendre comme ça à des hommes dont la seule vocation c'était de faire rire, de rendre heureux, de passer des messages.
Oui, oui, oui. Comme on dit, c'est vraiment sans dessein.
Absolument.
Ouais,
c'est son dessin. C'est une belle expression québécoise, en effet.
Voilà. Ben, je vais déjà donner les numéros de téléphone aux auditeurs. Si vous aimeriez parler rêve, analyse des rêves avec Jean. Donc, on a deux numéros de téléphone. Le premier numéro, c'est le numéro local 450-680-1570. 450-680-1570. Et vous pouvez nous appeler sans frais de partout au Québec. Le numéro sans frais est donc le 1-866-895-3142. 1-866-895-3142. Vous pouvez également nous suivre, comme vous le savez peut-être, sur notre site web qui est le www.radiomieuxêtre.com. Voilà. Donc, Jean, de toute époque, il y a toujours eu des rêves comme ça un peu... annonciateur d'une situation sociale extrême. Alors, est-ce que toi, t'as des cas comme ça? Parce qu'on sait quand il y a eu, par exemple, la mort de John Lennon. Moi, je me rappelle, il y a quand même déjà, je pense, ça fait déjà 25 ans. Moi, c'est un peu étrange. La nuit que c'est arrivé, j'ai rêvé à John Lennon. Et le lendemain, en recevant le journal à la porte, j'ai vu qu'il y avait eu l'assassinat de John Lennon, mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment frappé. C'est comme si c'était dans l'air et en rêvant, ben, je l'avais en quelque sorte capté.
Ah, tu touches à un point absolument fascinant. Les rêves sont à la fois personnels et collectifs. C'est comme si, ça c'est une des grandes découvertes de Carl Jung, qui a amené beaucoup au travail de rêve. C'est comme si nous étions tous reliés de l'intérieur par quelque chose qu'on appelle l'inconscient collectif. Et en effet, il y a des rêves qui nous concernent seulement nous, notre vie, et puis il y a des rêves qui concernent des fois notre famille, qui concernent nos proches, qui concernent notre communauté, ou qui même peuvent concerner notre nation, le monde tout entier. Les Romains, par exemple, hein, dans l'Antiquité, étaient très conscients de ça et s'en allaient au point que une personne pouvait demander à comparaître devant le Sénat romain ou devant l'Assemblée des citoyens d'Athènes pour raconter un rêve. Et on a des chroniques qui datent de l'époque. Par exemple, à un certain moment, il y a eu une épidémie de rêves, littéralement, à Rome, dans lesquels une déesse apparaissait furieuse, c'était Athéna, qui était furieuse parce qu'elle n'avait pas de temple à Rome et elle réclamait un temple, hors de quoi elle allait se mettre en colère. Et le Sénat romain a pris ça très au sérieux et a débloqué un budget immédiatement pour qu'on construise un temple à Athéna. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a un exemple qui est connu historiquement, qui est assez intriguant, d'un proche de Ben Laden qui a rêvé bien avant les attentats.
Ah, tout à fait. Je pense qu'on l'a même vu en vidéo. C'est passé en boucle à un moment donné.
Tout à fait. Tout le monde peut se souvenir de ça, qui a rêvé quelque chose qui se passait aux tours jumelles de New York. Et Ben Laden lui a demandé de taire ses rêves, de ne pas parler de ses rêves, sans lui donner d'explication, bien sûr. Et en effet, en écoutant les rêves, il m'arrive assez souvent, non pas d'entendre des rêves de portée mondiale, je dirais, c'est relativement rare, encore que on note depuis quelques années une recrudescence de rêves catastrophiques concernant l'environnement, de gens qui rêvent de tsunamis, de gens qui rêvent de différentes sortes de catastrophes, et que c'est étudié d'assez près par les spécialistes du rêve et les psychologues pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est comme si dans les rêves se manifestait une inquiétude collective. C'est comme si dans les rêves se manifestait le sentiment qu'on s'en va peut-être droit dans le mur et qu'il pourrait se passer des choses catastrophiques. Alors en effet, c'est comme si nous avions des antennes psychiques et que toutes nous sommes capables de rêver pour... encore une fois, pour la communauté, pour la famille, pour la nation, parce qu'on se sent concerné tout simplement par ce qui se passe.
Je pense même que c'était une pratique aussi chez les Amérindiens. Dans les communautés amérindiennes, encore aujourd'hui, on parle des petits rêves individuels et des grands rêves qui doivent être dits pour la communauté.
Absolument. Les Amérindiens prêtaient énormément attention, et prêtent encore, mais c'est intéressant de savoir vraiment que au Québec, les peuples amérindiens, que ce soit les Iroquois ou les Hurons, étaient ce qu'on appelle des peuples du rêve, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient aucune décision sans avoir consulté leurs rêveurs. Ils avaient des rêveurs attitrés, des rêveurs et des rêveuses, des personnes qui avaient manifesté relativement jeunes une capacité à rêver particulière et qui, quand il y avait une grande décision à prendre dans la communauté, se retiraient pendant quelques jours, jeûnait assez généralement et en ramenait de cette retraite un rêve qu'ils exposaient à la communauté. Pour la petite histoire, les Iroquois, qu'on appelle aussi les Odenossi, c'était leur nom véritable en réalité, n'ont jamais été vaincus militairement. Et cela va avec le fait qu'ils n'engageaient jamais aucune action militaire sans avoir interrogé leurs rêveurs. Mmh. Et ils ont déjoué plusieurs embuscades.
Ouais.
Grâce à leurs rêveurs. Ils n'entreprenaient aucune expédition de chasse sans rêver à propos de l'endroit où pouvait se trouver le gibier. Et ça leur permettait de déplacer les villages régulièrement pour savoir où ils allaient pouvoir survivre dans les années suivantes.
D'où allaient venir les troupeaux, qui allaient les nourrir, tout ça?
C'est ça, ils suivaient les troupeaux, ils suivaient l'évolution de l'écologie dans leur environnement, mais ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui d'étudier l'écologie, ils se fiaient à leurs rêves. C'est au point qu'on a une chronique écrite par un des jésuites qui est allé visiter les Odenossi et qui dit « Je ne peux rien leur apprendre, j'ai beau leur parler de Jésus-Christ, ils ont un Dieu, ce Dieu c'est le rêve, et ce Dieu leur parle tous les jours. » Et il avouait la difficulté qu'il avait, lui, à parler avec Jésus-Christ et à faire parler Jésus-Christ. Le rêve avait beaucoup plus d'importance pour les Amérindiens que tout ce qu'ils pouvaient raconter.
Mais les rêves, on les retrouve aussi dans la Bible, dans la tradition chrétienne.
Alors, absolument. Les rêves sont présents dans toutes les traditions. Dans la Bible, il y a Joseph, par exemple, qui rêve à un moment qu'il y a des gerbes de blé qui se courbent devant lui et qui raconte ce rêve un peu innocemment à ses frères. Et il leur livre une interprétation. Cette interprétation, c'est qu'il va devenir, il va être élevé dans son rang social et que ses frères, ses 12 frères, vont devoir s'incliner devant lui. Ses frères sont tellement frustrés qu'ils le jettent dans un puits. Mmh. Et c'est ce qui vaudra à Joseph d'être finalement emmené en Égypte et finalement de rencontrer le pharaon et de devenir son interprète de rêves personnels. Et il y a toute une série de rêves comme ça. Il y a un prophète hébreu, Daniel, qui était un interprète de rêves. Et il y a tout plein de choses dans la Bible à ce sujet.
C'est fascinant quand on sait que, en fait, on passe le tiers de sa vie en sommeil et en rêve. Donc, alors, c'est non négligeable, la dimension onirique ou la dimension rêve.
Absolument. En fait, on passe un tiers de notre vie à dormir et on passe un quart de notre sommeil à rêver. Et je fais tout de suite une petite parenthèse, c'est pour un sujet dont on parlera peut-être plus tard. J'avais préparé comme sujet aujourd'hui de parler un petit peu des rêves aussi chez les animaux, dans le règne animal, parce qu'il n'y a pas que les humains qui rêvent. Et en fait, l'être humain est un petit rêveur. Nous rêvons au total 2 heures par nuit.
Ok.
Alors qu'il y a des espèces, comme par exemple l'opossum ou le tatou géant, qui rêvent de 5 à 6 heures par jour, en réalité. On pourra parler de ça un petit peu plus tard, parce qu'en effet, il n'y a pas que les êtres humains qui rêvent. Vous avez peut-être aussi des animaux domestiques et vous pouvez observer peut-être comment ils rêvent, comment on peut voir qu'un chat éventuellement rêve.
Absolument. Un chat, un chien.
Un chat, un chien, un rêve. Alors, ça a été établi, d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, dans les laboratoires du sommeil à Lyon. C'est le professeur Louis Jouvet qui a étudié le sommeil des chats et qui a établi qu'ils rêvaient. J'ai déjà mentionné dans une autre émission que, avec les appareillages techniques modernes qu'on a, on est capable de détecter de l'extérieur si une personne est en train de rêver. On détecte une activité particulière du cerveau qu'on appelle le sommeil paradoxal.
Au niveau des yeux aussi, le rapid eye movement.
Exactement.
Le REM.
La phase de rêve se caractérise par un mouvement rapide des yeux, par ce qu'on appelle une atonie musculaire, c'est-à-dire qu'on ne bouge plus, les muscles sont flasques, il n'y a plus de mouvement, et cependant nos extrémités, nos mains, nos jambes sont éventuellement agitées de petits mouvements. Mm-hmm. Et quand on prend un électroencéphalogramme, on se rend compte, dans les périodes de rêve, que le cerveau est en activité à la même intensité que lorsque nous sommes conscients.
Oui, oui, oui.
Mm-hmm. Or, ben, les animaux, et en particulier les mammifères, montrent exactement les mêmes signes. À savoir qu'un chat, si vous l'observez pendant qu'il dort, ou un chien, vous pourrez voir que par moment, il a les yeux qui s'agitent, qui bougent doucement. Il a des frémissements au bout des pattes.
Oui.
Et si on prend à ce moment-là un électroencéphalogramme de ce chat ou de ce chien, on s'aperçoit que son cerveau est entré en activité, une activité aussi intense que s'il était conscient.
Mmh.
Et c'est tout à fait fascinant. On partage le rêve, en fait, avec au moins les mammifères et les oiseaux. On est beaucoup moins certain de ce qui se passe pour les reptiles. On est presque certain que les insectes ne rêvent pas du tout. Ouais. Mais les oiseaux et les mammifères rêvent comme nous. Et on a même une bonne idée de ce à quoi ils rêvent. Mmh. C'est une des grandes découvertes qu'a amené Louis Jouvet. Ce qu'il a fait pour obtenir ce résultat, c'est que, parce qu'on ne peut pas interroger un chat ou un chien sur ce dont il a rêvé, c'est qu'il a, il est allé sectionner une petite partie dans le cerveau qui inhibe les mouvements pendant le rêve. Donc, mmh. il s'est trouvé qu'il a pu observer des chats qui rêvaient et dont les mouvements, pendant qu'ils dormaient, montraient précisément ce qu'ils étaient en train de faire dans le rêve. Et comme nous, les chats vivent des scénarios qui sont des scénarios de leur vie quotidienne, de leur vie courante. Alors, on va voir un chat chasser, on va voir un chat sauter, on va voir un chat faire la cour à une chatte.
Ce que j'avais lu de mon côté, moi, c'est ça, c'est que le chat, le chien, l'animal, un peu comme l'être humain, le chat rêve d'être un bon chat. Et c'est un peu le programme génétique, c'est comment être optimal dans son espèce.
Exactement. C'est un processus permanent d'évolution. C'est comme si le rêve contribuait sans arrêt à notre évolution en tant qu'individu au sein de notre espèce. C'est aussi un processus d'apprentissage et de digestion. Apprentissage, par exemple, les jeunes chats qui commencent à apprendre à chasser répètent pendant la nuit les scénarios qu'ils ont envisagés de jour et les perfectionnent. Mmh. Les perfectionnent jusqu'à devenir d'excellents chasseurs. C'est comme s'ils acquéraient de l'expérience en dormant. Et il se trouve que les êtres humains font de même.
Pour devenir de meilleurs êtres humains.
Pour devenir de meilleurs êtres humains. Mais par exemple, il y a à l'autre extrême, là on va rentrer dans un domaine qu'on appelle le rêve lucide, c'est-à-dire des gens qui sont capables de prendre conscience qu'ils rêvent et de faire quelque chose consciemment quand ils rêvent, il y a des sportifs qui sont entraînés à accomplir des performances en rêve, à s'entraîner aux performances sportives qu'ils vont réaliser dans la journée en rêve. Mmh. Par exemple, cela fait partie de l'entraînement de certains gymnastes qui doivent répéter des séquences de mouvements extrêmement précis,
ouais.
dans lesquelles ils n'ont pas droit à l'erreur au millimètre près, et ils s'entraînent la nuit autant que le jour. Et on s'est aperçu, on a fait des tests vraiment poussés par rapport à ce genre de choses, qu'il y a un gain de performance qui est de l'ordre de 15 à 20% mm-hmm. par le fait de s'entraîner pendant la nuit à réaliser la performance.
Ouais.
Les rêves servent aussi, c'est ce qu'on peut observer, à digérer les événements. Ne serait-ce qu'on parlait tout à l'heure d'un attentat terrible, c'est un traumatisme pour nombre d'entre nous. Eh bien, quand nous sommes choqués comme ça, quand il y a quelque chose que nous ne pouvons pas intégrer parce mmh. que c'est trop difficile. Encore là, ce qui se passe, Charlie Hebdo, pour la plupart d'entre nous, ça se passe loin de nous. Mais imaginez si nous vivions dans un pays dans lequel il y a des voitures piégées qui explosent au coin des rues.
On l'a vécu récemment au Parlement d'Ottawa, puis à Saint-Jean.
Ce sont des traumatismes terribles. La psyché est choquée par ces choses-là. La psyché se retrouve dans la même situation que si nous tentions d'avaler un plat que nous ne pouvons pas digérer. Et on a des éléments de preuve qui montrent que le rêve sert à digérer l'événement. C'est-à-dire qu'en cas de trauma, par exemple, de trauma sévère, il est très fréquent que le rêve répète et répète encore et toujours la scène du trauma jusqu'à, d'une certaine façon, que nous soyons capables de faire la paix avec. Ça en va au point qu'on s'est rendu compte que, par exemple, et ça on s'en est rendu compte dès la Première Guerre mondiale, que quand des soldats qui sont au front commencent à rêver du front, c'est qu'ils ne sont plus capables de prendre une distance psychique. Normalement, un soldat qui est au front va rêver de sa famille, va rêver des gens qu'il a laissés derrière lui. Ouais. Et il va trouver un refuge et une compensation par rapport aux difficultés qu'il peut rencontrer et toute la tension qu'il peut vivre dans la journée. Et on s'est rendu compte, les psychiatres militaires se sont rendus compte que quand un soldat commençait à rêver en boucle de ce qui se passe sur le front, c'était le moment de l'envoyer en permission. Sinon, il risquait tout simplement de craquer et de ne plus du tout être efficace. Mmh. Donc les rêves sont vraiment des avertisseurs de ce qui nous pose problème, des moyens de digérer la réalité et de l'assimiler, et finalement, comme tu le disais, Jean, aussi travaille sans arrêt à notre évolution en conscience.
À notre bien individuel et collectif.
À notre bien individuel et collectif, à notre amélioration en tant qu'être humain.
Parfait. Bien, Jean, on va faire une petite pause et je vais tout de suite vous répéter les numéros de téléphone. Donc, si vous voulez parler à Jean, parler d'un rêve que vous avez fait. Voilà. Donc, le numéro de téléphone est le 450-680-1570. 450-680-1570. Numéro sans frais, 1-866-895-3142. Alors, voilà. À bientôt. À tout de suite. Me pintaba las manos y la cara de azul y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provecho el viento rápido me llevó.
desaparecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
Radio Mieux-Être vous invite à l'émission « Loin des yeux, près du cœur » tous les dimanches à 11h. La seule émission francophone qui aborde le domaine des retrouvailles. Informations et témoignages de personnes à la recherche d'un parent biologique ou enfant laissé en adoption à la naissance. Découvrez des gens qui sont à la recherche de leur identité et de leur dignité. « Loin des yeux, près du cœur » avec Normé Saint-Pierre est une présentation du mouvement « Retrouvailles » organisme sans but lucratif qui compte plus de 13 000 membres au Québec. En exclusivité sur les ondes de Radio Mieux-Être, tous les dimanches à 11h et en rediffusion à 19h. Radio Mieux-Être, un rendez-vous avec la vie. Radio Mieux-Être, un rendez-vous avec la vie.
Alors, de retour à l'émission « Vos rêves vous parlent » avec Jean Gagliardi. Alors Jean, tu nous parlais donc un peu plus des aspects physiologiques du rêve. On parlait de comment l'animal, en quelque sorte, rêvait comment devenir un meilleur animal, un chat, un meilleur chat, un chien, un meilleur chien. Mais aussi chez l'être humain, comment l'être humain vit et rêve pour devenir un meilleur être humain. C'est fort fascinant.
C'est ça. C'est comme si en fait il y avait un processus d'évolution permanente. Aussi bien chez l'animal que chez l'être humain, nous ne sommes pas très différents des autres mammifères sur ce plan-là, qui vise finalement sans arrêt, comme s'il y avait un programme, peut-être génétique, un programme psychique, qui vise sans arrêt à nous améliorer, à faire de nous de meilleurs êtres humains, des plus performants, mais plus conscients. Un peu comme on le disait hors onde, c'est comme s'il y avait une rivière sous la rivière qui était sans arrêt en train de couler, qui recueille aussi nos impressions, qu'est-ce qui se passe dans la journée. Nous ne sommes pas nécessairement conscients de comment nous sommes impactés par certains événements, par certaines rencontres, etc. Ça se passe dans notre inconscient. L'inconscient, c'est tout simplement ce dont on n'est pas conscient.
Selon Jung, un inconscient collectif un peu... de l'ordre, est-ce qu'on pourrait dire, d'un genre de Wi-Fi intérieur qui nous relie tous? C'est un peu drôle comme image, mais Carl Jung, le grand psychanalyste, psychiatre suisse, parlait de ça. Hein? Il disait que finalement, on était tous reliés.
Absolument. Carl Jung s'était rendu compte qu'il y avait des images, par exemple, dans les mythes, dans les contes et dans les rêves qui venaient aux gens et qui pouvait éventuellement, par exemple, leur parler de choses qu'ils connaissaient absolument pas. Il avait rencontré comme ça un paysan suisse qui, dans ses rêves, avait vu le même thème qu'un ancien alchimiste égyptien avait gravé dans un papyrus. Ça avait énormément intrigué et il a poursuivi ses recherches jusqu'à démontrer qu'il y a une psyché collective et que finalement nous sommes beaucoup moins isolés qu'il n'y paraît. Nous sommes un peu comme des iceberg, qui sommes tous reliés par l'océan, mais il n'y a pas vraiment de distinction, vous savez, entre la glace et l'eau de mer. Ce n'est qu'une question d'état de l'eau. L'iceberg est fait de glace, mais c'est encore de l'eau gelée, et tous ces icebergs sont reliés les uns aux autres par le fait qu'ils sont ensemble dans l'océan. Et bien, de la même façon, nous sommes reliés par la psyché collective. C'en est au point que il peut arriver quelque chose à un de nos proches et qu'il ne nous en parle pas et que nous pouvons en avoir des conséquences dans nos propres rêves.
On va souvent le rêver. C'est un peu la nouvelle qui arrive avant la nouvelle. C'est comme le bulletin électronique psychique, je ne sais pas, qu'on reçoit et qui nous avertit que quelque chose se passe.
C'est tout à fait. Ouais. On peut avoir donc des rêves qui concernent notre famille. Il est fréquent, par exemple, quand par exemple, dans la famille, il y a quelqu'un qui perd son emploi ou qui vit une grave crise, il est fréquent que d'autres membres de la famille rêvent pour cette personne.
Okay.
Et, par exemple, les enfants sont très, très sensibles à ce qui peut se passer dans un contexte familial. Tout particulièrement si c'est non dit, si on ne parle pas devant les enfants de ce qui nous préoccupe, il est fréquent que les enfants se réveillent un matin avec un cauchemar qui, curieusement, fait un lien avec les événements dont on aurait voulu, qu'on aurait voulu leur cacher, dont on aurait préféré ne pas leur parler. C'est comme s'il y avait une espèce d'obligation de conscience qui rentrait en jeu et qui fait que tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce dont on ne veut pas parler, qu'on balaye un petit peu sous le tapis, ressort à travers les rêves.
S'exprime haut et fort. Hein.
S'exprime haut et fort et ramène à partir de des émotions qui sont éventuellement difficiles, c'est la fonction des cauchemars, et des émotions qui ont besoin d'être prises en charge, qui ont besoin d'être prises en compte.
Est-ce qu'on peut dire que tout compte fait, le cauchemar, c'est un cadeau?
C'est exactement, c'est le titre précis d'un de mes articles de blog, c'est ce cauchemar, ce précieux cadeau, parce que dans chaque cauchemar, il y a une émotion négative, difficile, qui était là au fond de nous, qui nous prenait de l'énergie, qui éventuellement venait perturber notre vie sans que nous nous en rendions compte, qui vient de remonter et qu'on peut enfin assimiler mettre en lumière consciemment. C'est évidemment très désagréable. J'aime bien l'image que m'avait fournie un de mes enseignants qui disait qu'un cauchemar, c'est comme une bulle de méthane au fond de l'océan. C'est une bulle de gaz, c'est relativement dangereux parce que si ça remonte et qu'il y a quelqu'un qui fume une cigarette à côté, ça peut exploser. Mais quand ça remonte, s'il y a un bateau qui passe à côté, ça sent très 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 mauvais. Ça sent très mauvais, mais c'est passager parce que le méthane se dégage et part dans l'atmosphère.
Ouais.
Et finalement, un cauchemar, c'est un appel à faire face à nos émotions négatives, aux émotions difficiles qui sont en nous.
Très intéressant. Alors, tout ça pour dire que la nuit, nos rêves nous parlent, c'est le titre d'ailleurs de l'émission, et qu'on a tout intérêt à les écouter. Et je pense même que, confirme-moi si je me trompe, si je suis juste, en fait... En fait, si on porte attention au rêve, si on engage un dialogue avec le rêve, si on le valorise, il nous parle encore plus.
Absolument. Plus on s'intéresse au rêve et plus les rêves sont précis, et c'est exactement le bon terme que tu as employé, c'est un dialogue. C'est-à-dire que les rêves répondent à nos préoccupations. Quand on se couche le soir ou quand il y a eu un événement dans les jours précédents qui nous a touchés, qu'on en ait vraiment pris conscience ou pas, le rêve va nous apporter une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une réponse qui est toujours créatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse apprise, ce n'est pas la réponse pour laquelle on a été programmé par la société, par l'école ou par la famille. C'est la réponse créatrice de notre psyché à la situation que nous avons rencontrée ou à la question que nous nous posons. Si bien que quand on a un rêve, et quand on écoute les rêves, par exemple, comme je le fais, quand on interprète les rêves, une des premières questions qu'il faut poser, c'est « Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te préoccupait dans les jours qui ont précédé le rêve ?» Et très souvent, très très souvent, ne serait-ce qu'en faisant en interrogeant ce point, ne serait-ce qu'en prenant conscience des questions qu'on se posait, on établit un lien et le rêve s'éclaircit. Mmh. Il s'éclaircit bien souvent tout simplement par le fait que l'émotion centrale du rêve est en lien avec des événements vécus. Et dans le travail avec les rêves, on dit d'ailleurs qu'à partir du moment où on est capable de retrouver l'émotion du rêve dans notre vie diurne, la moitié du travail est fait. Okay. C'est-à-dire que le rêve commence à littéralement nourrir notre vie. Il amène une réponse à ce qui s'est passé.
Mm-hmm. Et finalement, nous amène à vivre plus pleinement.
Plus pleinement, plus consciemment. En fait, des grandes motivations du travail avec les rêves, c'est une motivation de conscience. Généralement, ça commence avec le fait qu'on rencontre des situations difficiles, des souffrances. Et les souffrances deviennent inévitables, éventuellement d'une certaine façon nous empêchent de dormir, nous réveillent. Et il n'est plus possible de détourner le regard d'un certain nombre de choses qui nous posent problème. Et c'est le moment où beaucoup de gens commencent à s'intéresser à leurs rêves pour essayer de comprendre qu'est-ce qui leur arrive. Mais une fois qu'on a compris qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui vient nous travailler, qu'est-ce qui cause cette souffrance, une fois qu'on a trouvé, grâce souvent au rêve, un moyen de vivre avec cette souffrance ou de la guérir, alors la principale motivation du travail du rêve, c'est tout simplement que ça alimente sans arrêt notre conscience, que toutes les petites choses qui tomberaient éventuellement, entre les craques du plancher, dans l'oubli, dans l'inconscience, mais qui sont en réalité importantes pour notre vie, nous reviennent à travers les rêves.
C'est un peu contradictoire, mais est-ce qu'on peut dire finalement que le rêve nous éveille?
C'est pas si contradictoire que ça. Au fond, dans toute chose, n'est-ce pas, il y a des dualités. Mm-hmm. Le sommeil, le rêve et l'éveil. Alors, c'est le slogan d'ailleurs d'un organisme qui s'appelle l'Arc-en-Ciel. Oui. Et si les rêves servaient à nous éveiller? Mm-hmm. C'est un slogan très juste. J'y adhère complètement. Je suis convaincu, pour ma part, que les rêves sont une des voies les plus directes vers l'éveil.
Mais Jean, dans le concret, qu'est-ce qui fait, je me mets à la place des auditeurs, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne rêvent jamais?
Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne rêvent jamais? En fait, c'est la question qui m'est le
plus
souvent posée.
Ou du moins, ne se souviennent jamais de leurs rêves.
Voilà, ne se souviennent jamais de leurs rêves, pour être précis. Parce que si on revient sur la physiologie du rêve, tout le monde rêve.
Ouais.
Tout le monde rêve et on a même établi en laboratoire du sommeil que si on empêche quelqu'un de rêver en le réveillant dès qu'il commence à rentrer dans une phase de sommeil paradoxal, au bout de quelques jours, cette personne commence à manifester des signes de déséquilibre nerveux très graves. Donc tout le monde a des phases de sommeil paradoxal et pendant ces phases de sommeil paradoxal, il se passe quelque chose, notre cerveau s'active, c'est comme si nous vivions pendant la nuit. Mais un certain nombre de gens ne se souviennent pas de leurs rêves. D'abord, il faut dire qu'il n'y a vraiment qu'une toute petite minorité de personnes, 2% de personnes, mm-hmm. des personnes qui ne se souviennent vraiment jamais de leurs rêves.
Ouais.
Semble-t-il pour des raisons physiologiques, comme s'ils en étaient coupés. La plupart du temps, quand on me pose cette question, La principale réponse, c'est qu'on ne prête pas assez attention aux tout petits rêves, aux tout petites images avec lesquelles on se réveille. On est à la recherche de grands rêves, de gros rêves. On voudrait vivre des grands épisodes pendant la nuit. Or, les rêves sont souvent tout simplement des toutes petites images qui nous restent là le matin, ouais. ou des émotions qui surnagent de la nuit. Et si nous prenons le temps de les écouter, de les prendre en compte, mmh. On a de plus en plus de rêves.
Ouais.
Je dirai peut-être un petit peu plus tard, je donnerai quelques trucs pour se souvenir de ces rêves. J'en parlerai tout à l'heure.
Ouais. Donc Jean, ben, on a un appel,
voilà,
quelqu'un qui voudrait parler avec toi
volontiers.
De ces rêves. Voilà, on est à l'écoute. Bonjour.
Oui, bonjour. Voici, j'ai rêvé l'autre jour à ma fille que j'ai pas vu depuis un bon bout de temps, puis je sais pas, elle me boude. J'ai rêvé qu'elle coiffait mes cheveux. Et puis, on s'est regardé dans le miroir, puis j'étais OK. C'est vrai que j'ai besoin de nouvelles coiffures, mais pourquoi j'ai rêvé ça? Je me demande pourquoi un peu.
Oui, bonjour, madame. Merci de nous partager ce rêve. C'est une excellente question. Comme vous dites, alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas en contact à ce point-ci avec votre fille ou elle vous boude, c'est le terme que vous avez employé?
Je crois qu'elle boude ou je ne sais pas trop où elle a trop avancé dans la vie, alors je pars à sa hauteur, les deux.
Ah, alors je vous posais la question, je voulais bien vérifier le mot que vous employez parce que c'est un mot qui est chargé, j'imagine, d'une certaine nostalgie. Vous aimeriez la revoir, votre fille, vous aimeriez être en contact avec elle?
Mais oui, certainement.
Voilà, ça vous touche, hein, n'est-ce pas?
Puis j'ai une tête dure un petit peu, puis je lui ai déjà demandé des explications, mais elle me répond très vague, très très vague.
Et est-ce que vous entendez ce que vous venez de dire, madame? Comment c'est intéressant, comment l'inconscient joue non seulement avec nos rêves, mais avec nos paroles. Vous me parlez d'un rêve où votre fille vous coiffe et vous me dites que vous avez la tête dure. Vous voyez le lien tout d'un coup qu'il peut y avoir?
Oui, je réalise là sur le moment là, oui.
Hein, c'est ce qui est fascinant quand on parle des rêves, quand on discute avec des gens qui rêvent, c'est que les moindres détails prennent leur sens dans la façon dont on parle du rêve, dont on parle de ce qui entoure le rêve. Alors, pour vous aider à répondre à cette question que vous me posiez, parce que c'est vous qui avez la réponse, vous savez, c'est pas moi. Si vous vous remémorez ce rêve, comment vous vous remémorez ce rêve, c'est quoi votre émotion? Comment vous vous sentez quand votre fille est en train de vous coiffer?
Oh mon Dieu, bien, confortable, mais un peu gênée, un peu réservée, je devrais dire.
Un peu réservée?
Oui, je sais que là, présentement, là, dans la réalité, là, je sais que j'aurais besoin d'une nouvelle coiffure, mais je me dis, oh non, plus tard, j'ai pas personne à flair, quoi que ce soit. Alors,
alors, ça vous touche que votre fille vienne vous donner une nouvelle coiffure, finalement, si je comprends bien ça, qu'elle s'occupe de vous et qu'elle s'occupe peut-être de vous embellir, de vous donner une nouvelle coiffure.
Oui, mais moi, dans la réalité encore, là, je reviens à ça, là, c'est que je ne sais pas pourquoi elle ne veut plus communiquer avec moi ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être fait quelque chose ou je ne sais pas. Je lui ai déjà demandé des explications. Mais ça fait longtemps, là, ça fait au moins 2 ou 3 ans, trois ans et demi comme faut de ça. Et puis, elle n'a pas... je la sens distante, très, très distante parce qu'elle n'appelle pas pour Noël, elle n'appelle pas pour la fête. Puis moi, comme j'ai une tête dure un peu, alors j'appelle, mais elle répond pas. Puis j'ai peur aussi de qu'elle me rebroue, qu'elle me dise, bon ben...
Qu'elle vous rejette, finalement.
C'est ça.
C'est ça.
En réalité, c'est rejeté, là, mais...
J'ai peur
d'avoir le sceau d'approbation d'elle, de « achale-moi plus, parle-moi plus », je sais pas, là.
Alors, pour reprendre une expression qu'on a au Québec, qui je crois que en France aussi, on la comprend bien, on pourrait dire que votre rêve vous montre comment votre fille joue dans votre tête.
Oui.
Hein? Comment ça vous travaille? Comment peut-être que vous y pensez pas tous les jours, peut-être que c'est pas tout le temps présent, mais que finalement c'est là et que ça vous travaille, ça joue dans votre tête. Et quand vous me dites que vous avez une tête dure, peut-être que doucement, tranquillement, ce qui se passe avec votre fille vient attendrir votre tête. Peut-être que il y a quelque chose qui est en train de faire son chemin pour chercher la façon de reprendre contact avec elle. Ne serait-ce que pour lui dire comment vous vous sentez quand vous êtes loin d'elle et comment vous vous sentez bien quand vous pensez qu'elle s'occupe de vous et qu'elle est là avec vous. Peut-être même que le fait même de parler de ce rêve, comme vous le faites là tout de suite, c'est en soi une étape importante parce que vous nommez vos sentiments, vous manifestez combien cette situation vous préoccupe, encore une fois, joue dans votre tête.
OK. OK, j'avais pas vu ça du tout, du tout, du tout, du tout, comme ça, pas en tout. Ouais. Vous avez. Ouais, c'est. Ouais. Mon Dieu, plus j'y pense, plus c'est. Oui, c'est réel. C'est... OK, l'explication est très bonne.
Ce n'est qu'une proposition, madame. C'est vous qui pouvez oui. voir si ça fait sens pour vous. C'est ça qui est très intéressant avec le travail des rêves, c'est que nous ne pouvons pas savoir pour la personne qui rêve. Mais par contre, la personne qui rêve, si la proposition d'interprétation est juste, il se passe quelque chose en dedans, il se passe un déclic, il se passe quelque chose qui bouge. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous avez contacté plus profondément ce qu'il y a dans votre rêve?
Oui, beaucoup. Une autre chose, le lendemain, j'ai rêvé à quelque chose de moisi. Mais je pas le lendemain, la journée d'après. Mais je me souviens pas du rêve comme il faut tout. Mais qu'est-ce que c'est ça à peu près?
Ben quelque chose de moisi, je comme ça au out of the blue, c'est pas évident, mais vous pouvez voir que quand il y a quelque chose de moisi, c'est qu'il y a quelque chose qui est passé date, il y a quelque chose qui est périmé. Et peut-être que c'est en lien avec ce qu'on discutait précédemment. Peut-être qu'il y a des vieilles rancœurs ou des vieilles choses qui sont maintenant complètement passées date. Ce qui est intéressant, voyez-vous, avec les rêves, c'est que c'est moins de savoir d'où ça vient ou qu'est-ce que c'est que où c'est que ça va. Qu'est-ce que ça nous invite à faire? Alors, s'il y a quelque chose de moisi dans votre frigidaire, qu'est-ce que vous faites?
On va le jeter, on va s'en débarrasser.
Voilà. Alors, il est vraisemblable que s'il y a quelque chose de moisi qui survient dans vos rêves, c'est qu'il y a une invitation à trouver qu'est-ce qui serait passé date, qu'est-ce qui serait dépassé, qui n'est plus comestible, qui n'est plus valable et dont il faudrait se débarrasser.
Mm-hmm. OK. Une autre question pendant que je vous ai. Est-ce que vous avez le temps?
Oui, tout à fait. J'ai encore bien plus d'une heure devant moi. Avec on a fait 2 heures d'émission aujourd'hui, donc vraiment pas de problème.
OK. Qu'est-ce que ça veut dire? On est comme entre deux sommeils. Juste lorsqu'on se couche, juste avant de tomber dans un sommeil profond, j'ai comme des visions. Je vois des gens, des faces, et puis je peux penser. Des fois, je me dis, bon, ben faut que je m'en rappelle. Mais le trois quarts du temps, je ne m'en souviens pas du tout. Mais on dirait qu'après, lorsque je regarde des événements, soit à la télé ou que je rencontre des gens, mon Dieu, j'ai vu cet événement-là, puis cette figure-là qui quelque part, c'est comme du déjà vu en réalité. Qu'est-ce que c'est des prémonitions, je sais pas quoi.
Ah, vous touchez un sujet passionnant, très large. D'un côté, comment les rêves et les rêves au sens large, pas seulement les rêves de la nuit, mais les rêves qui peuvent, les images qui nous viennent du dedans peuvent parler du futur. Je vais en parler un petit peu après parce qu'il y a vraiment des éléments de preuve. On en parlait même par rapport aux événements collectifs tout à l'heure. Mais d'abord, ce que je veux mentionner, c'est que ce dont vous parlez, c'est très bien connu. Ça s'appelle la phase hypnagogique, qui est entre la veille et le sommeil. On rentre dans un état intermédiaire entre les deux, n'est-ce pas? Et c'est un moment où tout simplement les images intérieures qui nous viennent sans arrêt en réalité. C'est-à-dire qu'à tout moment de la journée, notre cerveau droit produit des images sans arrêt, en réponse aux événements autour de nous, à nos préoccupations, à ce qu'on pense. Mais dans la journée, la plupart du temps, nous sommes bien trop préoccupé par tout ce qui nous appelle à l'extérieur. Notre cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel, prend tout le contrôle, prend toute la place, et les images intérieures ne parviennent pas à notre conscience. Carl Jung avait une très belle image pour ça. Il parlait de comment les rêves disparaissent le matin quand la conscience se réveille, un peu comme quand le soleil se lève et que les étoiles, elles sont toujours là, les étoiles, mais les étoiles disparaissent, elles sont cachées par la lumière du soleil. C'est la lumière de notre conscience. Or, pendant la nuit, au moment où vous vous endormez, vous rentrez dans un moment de faible vigilance dans lequel les images intérieures remontent et en fait vous rentrez en état de rêve conscient.
Oui, mais...
Et ces images, c'est comme les images de la nuit, c'est des images de rêve et en effet, il est tout à fait possible que vous ayez aussi bien des images de rêve, de choses qui vous sont arrivées, qui vous ont touché dans la journée, que des images qui vous parlent de futur. Qui sont en préparation et que votre psyché devine, qu'elle vous prépare à rencontrer.
C'est ça, parce que c'est toujours comme futur, parce que c'est le lendemain ou la semaine d'après que je me dis, ça fait peur, là. Quelquefois, c'est vraiment, là, mais c'est pas toujours, là. Il y a des grandes phases que j'en ai pas du tout.
Mm-hmm. Oui. Ça fait peur et en même temps, vous voyez bien que ça vous prépare quelque part à ces choses-là. Et au fond, moi, plutôt que de parler de rêves prémonitoires, je préfère parler de rêves préparatoires. On en rencontre assez souvent. Et la vertu de ces rêves, c'est que on se rend compte qu'on n'est pas si démunis devant les accidents du destin, les hasards, toutes les choses qu'on ne connaît pas, mais qu'il y a vraiment quelqu'un en nous qui sait, qui peut nous prévenir et qui peut nous proposer des réponses s'il y a besoin. Alors très souvent, c'est les gens qui sont sensibles à ces prémonitions sont des gens qui ont besoin de sentir comment, pourrait-on dire, il y a un ange gardien à l'intérieur qui est capable de nous prévenir de tout ce qui pourrait arriver. Et finalement, ça permet de contacter une paix à l'intérieur.
Oui, mais vous savez, ces rêves-là, souvent, sont d'autres espaces, de même pas mon environnement autour ici.
Absolument. Ça vous montre bien que vous êtes bien plus vaste que ce que vous pouvez penser être. Que vous êtes justement en contact avec toutes ces choses-là.
Ce qu'on disait tout à l'heure.
Pour les anciens, vous savez, le rêve était envisagé comme une façon de voyager dans d'autres mondes. Et finalement, ce qu'ils disaient, c'est que le rêve nous rappelle que notre âme a des ailes et que nous sommes donc en contact avec bien plus de choses que ce dont nous sommes conscients au quotidien.
OK, mais merci beaucoup.
Bien, merci pour votre appel, merci pour vos questions.
Passez une bonne année.
Merci, vous aussi. Je vous souhaite une excellente année.
J'aime beaucoup votre programme.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
C'est vraiment fascinant, toute cette question des rêves prémonitoires, de l'idée aussi qu'on est tous connectés à notre insu sans le savoir, et que souvent, les nouvelles qu'on reçoit au petit matin avec le journal, la télé, la radio... Bon, on a déjà reçu les nouvelles avant.
C'est ça. C'est comme si on était des détecteurs sismiques capables de sentir tous les tremblements de terre qui secouent la planète. Et on s'en rend compte tout particulièrement pendant nos rêves, à l'écoute de nos rêves. Ou, comme je le disais, plus généralement, si nous étions capables de faire taire un petit peu le cerveau gauche, le mental qui parle tout le temps, et qu'on est à l'écoute des images intérieures qui nous viennent sans arrêt, on a comme ça sans arrêt des éléments d'information qui nous viennent, qu'ils concernent notre situation personnelle, qu'ils concernent notre situation familiale, notre famille, nos proches. Nos proches, quand je dis proches, ça peut être des proches qui sont lointains, des proches avec qui on n'est pas en contact depuis longtemps ou qui sont sur un autre continent. Et on a d'innombrables exemples, d'innombrables preuves que les rêves nous portent de l'information sur ces sujets.
Mmh. Donc, c'est vrai pour les rêves, mais c'est vrai aussi dans la vie quotidienne, toujours finalement développer cette habitude d'être attentif à la vie intérieure, finalement.
Au fond, les rêves sont un cas particulier du flot des images intérieures qui nous viennent sans arrêt. Et Carl Jung disait que si notre conscience n'était pas aussi bruyante, nous aurions sans arrêt ces images qui nous informent, nous rendrions compte que nous rêvons en permanence, que nous sommes sans arrêt informés de l'intérieur par des images de rêve. J'en ai un exemple que racontait Carl Jung. Il raconte cet exemple d'un homme d'affaires qui allait signer un contrat et qui, dans la nuit, a rêvé qu'il serrait une main qui était enduite de quelque chose de noir qui lui salissait la main. Et il a donc parfaitement compris que ce contrat, il le signait avec quelqu'un qui était malhonnête et que ça allait le salir lui-même. Mais je vous invite à faire l'expérience. La prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un d'inconnu que vous ne connaissez pas, fermez les yeux quelques minutes avant cette rencontre et imaginez simplement cette personne que vous ne connaissez pas qui vient avec votre rencontre et laissez venir une image. Vous verrez après la rencontre, comparez l'image intérieure qui vous est venue avec la façon dont la rencontre s'est déroulée.
Fascinant. C'est un peu aussi, on pourrait dire, le GPS intérieur.
Absolument. C'est notre GPS intérieur qui nous donne toujours une orientation.
Excellent. On va faire une petite pause.